Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h44. À suivre, le petit déjeuner de l'actu. On vous attend 0826-300-300 pour échanger avec Thierry Garrier, Christine Bouillot, Éric Revel. Et tout de suite, c'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, qu'est-ce qui fait parler ce matin et écrire dans les journaux Et un anniversaire, notamment, à la une du Parisien aujourd'hui en France. Un an sans public pour le monde de la culture.
Et oui, des professionnels du spectacle qui lancent un nouvel appel ce matin. Ils veulent être fixés enfin sur un calendrier de reprise, car le constat est bien sombre entre les antidépresseurs, les projets de bébés repoussés, les difficultés à bénéficier du statut d'intermittent. J'ai perdu 15 kilos, raconte le directeur d'un théâtre qui devait ouvrir ses portes en mars dernier. Finalement, il a obtenu des aides, 10 000 euros de la part du gouvernement, 16 000 de la part de la Fédération des théâtres privés. Un coup de pouce pour une situation qui reste néanmoins délicate. Ce directeur continue en effet de payer chaque mois près de 9 000 euros de charges de loyer et de salaire pour son régisseur. Pour autant, la culture n'est pas à l'arrêt, affirme Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, qui s'explique ce matin dans les colonnes du Parisien.
Oui, c'est ça, parce qu'elle dit qu'il y a des tournages encore, en fait, un certain nombre de choses qui sont en cours, mais c'est beaucoup plus pour la télé, notamment les captations. Est-ce qu'il y avait trop de monde sur les quais ce week-end? C'est la question qui fait la une de Sud-Ouest, par exemple.
Mais oui, avec en illustration une foule de Bordelais en train de pique-niquer sur les bords de la Garonne, faute de terrasses. Ils étaient nombreux à avoir pris place sur les quais pour profiter du soleil ce week-end. Dans le même temps, à Paris, les quais de Seine ont été évacués une heure avant le couvre-feu hier, tandis qu'à Toulouse, les berges de la Garonne ont carrément été fermées, au moins jusqu'au 8 mars. Sud-Ouest qui indique que le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, n'est favorable à une telle fermeture qu'en dernier recours. Ouais. Dans la dépêche du midi, c'est l'heure de vérité. Pour qui? Pour Nicolas Sarkozy. Ben oui, le tribunal de Paris se prononce en effet ce lundi dans l'affaire dit des écoutes. Le parquet a requis 4 ans de prison, dont 2 fermes, pour corruption et trafic d'influence.
Oui, et dans la République des Pyrénées, les commerçants se mobilisent pour les étudiants en galère.
Oui, opération solidarité de la part des étaliers des Halles de Pau. Ils ont distribué hier 70 paniers aux étudiants fragilisés par la crise sanitaire. Ailleurs en ville, ce type d'initiative se multiplie, comme l'indique la République des Pyrénées. Mmh. Autre opération, cette fois-ci revendicative à la une de l'Éclair des Pyrénées, avec ses habitants qui s'opposent à un projet d'antenne relais haute de 44 mètres, une antenne qui doit s'élever à une centaine de mètres seulement des premières habitations.
Oui, merci beaucoup Benjamin donc pour cette revue de presse. On poursuit avec Yann Marek, hein, rédacteur en chef de Midi Libre, qui est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour à tous, comment allez-vous?
Écoutez, ça va plutôt bien pour nous dans le contexte actuel. Vous avez une interview exclusive ce matin de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui va être dans la région, hein, chez vous.
Oui, il est dans la région, il est plus exactement dans le Gard. Il est à Alès et il est à Nîmes et il fait des annonces puisque c'est un peu la distribution de cadeaux avec Gérald Darmanin. Il est passé du côté de Marseille, il a annoncé 300 postes, une dizaine de postes à Arles. Et là, il fait des annonces donc sonnantes et trébuchantes. Il annonce 3 policiers supplémentaires pour la ville d'Alès, 50 000 habitants. Pour la ville de Nîmes, il annonce aussi 13 postes supplémentaires, portant le chiffre à 222 policiers, de 222 à 283. Et en suivant, il annonce aussi 14 policiers de plus pour la ville de Montpellier. Donc on voit bien qu'il est très conscient de ce qui se passe actuellement dans les quartiers. Et du reste, il nous dit des énormes moyens pour restaurer la paix publique dans les quartiers. On l'a encore vu ce week-end avec, malheureusement, qui s'est passé du côté de Reims avec notre compagnie.
Oui, c'est vrai. Qui a été effectivement blessé lors d'un reportage dans un quartier. Il faut dire que il dit notamment, je crois, il veut s'attaquer aux points de deal dans certains endroits, dans certaines villes.
Oui, parce qu'effectivement, on le sait, dans certains quartiers, l'économie souterraine est soutenue par la drogue. Oui. Et effectivement, il parle de ces jeunes, justement, de 12, 13, 14 ans, qui font le chouf. Alors le chouf, c'est quoi? Ben, c'est simplement le gay. On est en train de regarder ce qui se passe, et ce sont ces jeunes. Et il dit, oui, la République a sa responsabilité, mais ce sont aussi les parents, parce qu'à 12 ou 13 ans, c'est bien de restaurer le discours d'autorité, mais c'est les parents qui ont cette autorité aussi d'entrée. Peuvent insuffler, en tout cas donner et corriger un certain nombre de dérives que l'on constate, des dérives juvéniles de la part des jeunes, justement. Et justement, il est en train de combattre et il nous dit on faut harceler tous les points de deal dans la région avec tous ces quartiers qui sont notamment en difficulté à cause du règne de la drogue qui a fait 5 morts à Nîmes en 3 mois.
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de règlements de compte à Nîmes. À Montpellier, le centre-ville qui était en état d'insécurité, hein, le maire de Montpellier lui-même l'a dit, il a essayé de mettre un certain nombre de moyens. Là aussi, il faudra des renforts de policiers. On va suivre donc ce déplacement de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur place. Merci Yann Marek, hein, rédacteur en chef de Midi Libre. Et on en reparlera de ce déplacement avec Philippe Lavenu, hein, qui est secrétaire régional d'Alliance Police Nationale pour l'Occitanie, qui sera avec nous dans un quart d'heure, 20 minutes maintenant, et qui est en route actuellement pour Alès, où il va voir le ministre de l'Intérieur cet après-midi.
Et on continue avec le petit déjeuner de l'actu. Thierry Guerrier, Christine Bouillot, Éric Revel, vos appels comme tous les matins, 0826-300-300.
Ouais, on va faire un peu le bilan du week-end avec vous. Je pense à Éric Revel et puis Christine Bouillot, parce que d'un côté, à Nice, tout était fermé, pas le droit de sortir dans les Alpes-Maritimes. Et puis dans d'autres endroits, on est sorti à Biarritz, du côté de Perpignan, de Montpellier, de Clermont-Ferrand, de Paris. Il y avait du monde, Bordeaux, il y avait du monde un peu partout, évidemment. Et bien sûr, sur les quais de la Garonne, hein, Christine, il a fallu l'intervention de policiers. Ils vont être fermés maintenant. Avant cela, Thierry Guerrier, vous vouliez mettre une note, vous, aux citoyens de la Convention sur le climat qui ont noté aussi le gouvernement, hein, sur les mesures qui devaient être prises et la politique climat. Oui, si vous mettez le micro, ce sera mieux.
Je disais, voyons donc, c'est-à-dire que la créature d'Emmanuel Macron, vous savez, ce feeling politique, cette intuition politique qu'il a eue après crise des Gilets jaunes, issue de la création de sa taxe carbone, pour essayer de lutter contre les gaz à effet de serre, notamment, cette idée qu'il fallait introduire des citoyens tirés au sort pour mettre de l'air un peu dans la politique, pour essayer de redonner la parole au peuple. Au départ, c'est une idée qui est intéressante. Sauf que les voilà qui se sentent investis d'une mission, d'un rôle messianique comme ça, supérieur aux élus notamment, et qui se mettent à noter le gouvernement, c'est-à-dire à faire de la politique, clairement. Oui. D'ailleurs, pas tous. Hein. 119 quand même sur 150 qui se réunissent par visioconférence ce week-end. Et alors que le débat parlementaire est en cours, Eh bien non, ça leur va pas sur tel ou tel point. Alors ils donnent des notes sur 10, 3, 4. Alors le débat est même pas fini. La loi climat est en discussion au Parlement. Qui a la souveraineté populaire ? Les élus. Ouais. Donc oui, j'en peux être un peu surpris, si vous voulez, même un peu avec ironie. Qu'ils apportent de l'expertise, une réflexion, une bouffée d'air, ces citoyens tirés au sort, comme par exemple dans le débat les 35 sur le vaccin, si c'est ça, oui. Mais si c'est pour se substituer aux détenteurs de la souveraineté populaire, alors là, mais on délire totalement. Alors,
En même temps, on voulait une démocratie participative.
Mais participons. Mais qu'est-ce que c'est que ce sentiment de note ? Mais qui va donner la note ? Ce sont les électeurs qui donneront la note finale. Ouais. C'est le peuple qui reste souverain, ne l'oublions pas. Mmh. Après, on peut entrer dans le débat avec des éléments de... Bon, voilà. Moi, je dirais qu'il y a un personnage dans tout ça qui est intéressant. C'est Barbara Pompili. Parce qu'on sait bien que la difficulté, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est urgent, mais il y a aussi ce qui est possible. Et elle essaye avec... Elle laisse égratigner son image. Parce que voilà une écologiste qui se dit je ne fuis pas le train en marche, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, comme Nicolas Hulot, mais j'essaye d'aller dans la mécanique gouvernementale et des décisions législatives pour mettre en place des mesures difficiles qui s'imposeront à tous, qu'il s'agisse des voyages, des transports.
C'est vrai. Alors, si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler 0826-300-300. À propos de mesures, alors, il y a ce qui a été décidé, hein, Christine Bouillot, comme interdire, par exemple, les quais du côté Toulouse, où on se rassemble en grand nombre le week-end. Comment c'est perçu ?
Alors, je vous dirais que c'était quasiment couru d'avance, hein, cette situation, parce que samedi après-midi, c'était tout simplement noir de monde. Voilà, c'était la sortie des gens qui étaient en vacances, des étudiants qui sont chez eux toute la journée en visio, qui avec un couvre-feu à 18h, vous franchissez la barre des 20 degrés, vous avez les bords de Garonne avec les pelouses et les terrasses, et bien tous ces gens-là se retrouvent effectivement pour profiter d'un bol d'air avant 18h sur les bords de Garonne. Donc on joue au touche-touche, c'est évidemment pas supportable pour les autorités, alors que on essaye de dire qu'il faut absolument respecter les gestes barrières et surtout éviter une situation à la niçoise ou à à la zone de Dunkerque. Donc la décision est tombée avec l'accord du préfet, c'est qu'on ferme les bords de Garonne. Alors que vont faire tous ces gens? Alors on parle des bords de Garonne, mais je peux vous garantir que hier soir à 18h, les accès au centre de Toulouse étaient particulièrement chargés sur la route, parce que les gens rentraient de la mer, rentraient de vacances, rentraient de la montagne,
de la campagne.
Tout le monde avait essayé, et de la campagne, tout le monde avait essayé de profiter d'un bol d'air. Parce que cette mesure de confinement et de couvre-feu à 18h commence à peser lourd. Hein. Donc, ouais. C'est vrai que c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Donc, c'est pas très bien perçu, ouais. Évidemment. Ce qui va se passer, c'est le système, Patrick, des vases communicants. Hein. C'est que si vous fermez un endroit, les gens iront ailleurs pour essayer de trouver un peu d'espace de liberté, les moyens de se dégourdir les jambes, je dirais.
Alors, comment a-t-on fait ce week-end sur la Côte d'Azur, Éric Revel, vous, le patron d'Azur TV?
Eh bien, ça s'est passé exactement à Nice comme ça s'est passé à Toulouse, c'est-à-dire que les Alpes-Maritimes étant confinées, le week-end, le couvre-feu 18h, ajouté à cela qu'il n'y a pas eu de neige dans le Haut-Pays niçois depuis 30 ans, avec ce niveau d'enneigement, ben, qu'est-ce que vous pensez qui s'est produit? Des embouteillages monstres pour les Niçois qui désiraient partir dans le Var, qui est le département limitrophe, ou pour monter dans les stations de ski du Haut-Pays, comme Rhon ou Valberg.
Donc, mais il fallait une attestation
à Nice, les gens...
Une autorisation.
Il fallait une attestation. Ben non, si vous non. Si vous partez avant la mise en place du confinement le samedi pour le week-end, ben vous pouvez partir le vendredi. Vous êtes libre de partir le vendredi. Donc vous avez des gens qui sont partis le vendredi. Donc on a assisté à des embouteillages, je dirais pas record, mais fort à la sortie de Nice pour les gens qui montaient en station à partir du vendredi soir et qui sont revenus le dimanche avant 18h. Alors là, je sais pas trop comment ça s'est passé parce que par définition, là, vous êtes encore dans la période de confinement du week-end et vous êtes limite avec le couvre-feu de 18h. Enfin, tout ça pour dire que déplacement de population, dans le Var, des locations, même dans l'arrière-pays, et puis des stations de ski qui ont été prises d'assaut parce que les Niçois voulaient respirer pendant le week-end. Donc, est-ce que tout ça ne va pas entraîner des clusters ailleurs qui vont... Enfin, bref, je pense qu'on marche un peu sur la tête. Quand même,
hein. Compliqué à gérer. Hein. Ouais. Thierry Guerrier, un mot, oui.
Oui, une anecdote, mais je regardais ce matin sur Twitter, en faisant un tweet sur Sud Radio, Renaud Capuçon, le violoniste, qui se réjouissait ce week-end d'être allé à Madrid, où pour la première fois, disait-il, depuis le mois de novembre 2019, eh bien, il s'autorisait un concert devant des vrais spectateurs à Madrid, où tout est ouvert.
Donc il a pu le faire. Il a pu se produire.
Et voilà.
Et il y a autre chose qu'on ne peut pas faire, c'est du sport, où c'est extrêmement difficile. Hein. Et à ce sujet, d'ailleurs, Christine, en salle, mais même à l'extérieur, parfois, sur des sports co compliqués. Il n'y a pas de compétition, par exemple, en rugby, en football, en dehors des professionnels. Emmanuel Macron doit rencontrer tout à l'heure les responsables, les présidents de volley et puis de hand, notamment, hein, Christine.
Volley, hand, basket, les trois grands clubs de sport co en salle aujourd'hui. Alors, il y a eu une image assez unique la semaine dernière au CNOSF. C'est les présidents des 15 fédérations de sport en salle. Alors, ça va de la lutte à la boxe, au patinage artistique, au sport co, comme le volley, le hand, le basket. On fait une conférence de presse pour annoncer, effectivement, les pertes abyssales. Hein. Ça représente 2 200 000 licenciés. En moyenne, il y a 20% des clubs qui n'ont déjà pas survécu et une perte de licenciés qui va entre 20% et 50%, presque 60% pour certaines fédérations. C'est les grands oubliés, hein. faut être très clair. On entend beaucoup Roselyne Bachelot pour la culture, elle fait le, entre guillemets,
enfin,
elle fait le job.
Non, non, attendez, on ne l'a pas beaucoup entendu, justement, lui a reproché. Là,
on lui a reproché.
Elle commence à revenir.
Elle commence à revenir. Alors, si on doit comparer, est-ce que la ministre des Sports, même si aujourd'hui elle est sous la tutelle de Jean-Michel Blanquer, est à la hauteur des enjeux? C'est vrai que c'est un tout petit peu compliqué. Elle a, cela dit, le cluster du rugby à gérer aujourd'hui avec le 15 de France.
Recherche le coupable, hein, si vous avez une idée.
On essaye de comprendre la bulle sanitaire pour information pour Bernard Laporte. Les fédérations de basket et de handball ont fait des bulles sanitaires et des compétitions internationales qui ont très bien fonctionné. Il n'y a pas eu de problème. Donc, s'il va avoir des informations, qu'il aille se renseigner. Voilà, ça, c'est une parenthèse. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a effectivement un grand désarroi et ça rejoint le sujet que l'on a aujourd'hui sur le désarroi des jeunes et désarroi dans les quartiers. Le président de la Fédération française de boxe disait aujourd'hui c'est un vrai désastre parce que les gamins qui viennent dans nos salles ne peuvent plus y accéder. Ils sont dans la rue, ils sont en train de s'emmerder et ils sont, pardonnez-moi pour le terme, mais il y a véritablement un enjeu sociétal aussi derrière cette ouverture et cette autorisation de quoi ? d'ouverture des gymnases. Prenez les professeurs de PS aujourd'hui. Ils n'ont plus accès au gymnase, donc ils font faire quoi ? Ben, certains font de la randonnée, les font marcher. Alors autant vous dire qu'un ado de 15 ans à qui on dit on va aller marcher pendant une heure, c'est pas forcément ce qu'il a de plus facile à faire. Non, les conditions météo sont toujours pas optimales. Donc il y a un véritable enjeu au-delà de la pratique sportive, de santé publique.
À l'extérieur, cela dit, à l'extérieur, sur les petits terrains un peu partout dans les quartiers, ça joue quand
encore
même beaucoup
qu'il
au basket.
Oui,
non, mais
il
quand il y en a,
ah
ben quand oui. il y en a, j'ai vu qu'ils étaient pris d'assaut.
Le week-end.
Il y avait beaucoup de monde. Le week-end, oui, bien sûr, le week-end.
oui,
allez, on va poursuivre le petit déjeuner de l'actualité dans un instant avec vos appels. Il y a Chantal qui est en ligne, notamment au 0826-300-300. On aura un représentant policier qui va voir Gérald Darmanin cet après-midi. Et puis tout à l'heure, à 9h15, ne ratez pas non plus ce rendez-vous jusqu'à 10h où vous pourrez réagir.
Et c'est un voile sur le monde aux éditions de l'Observatoire et c'est avec l'ex-journaliste de l'Obs, Chantal de Reder, qui sera avec nous. Vous pourrez bien sûr poser vos questions au 0826-300-300.
Des témoignages, une enquête assez incroyable un peu partout dans le monde, en Iran, en Égypte, en Tunisie, en Belgique, en Bosnie, aux États-Unis et puis également dans les universités françaises. Elle dit mais où va-t-on dans ce monde ? Où va-t-on ?
Et on vous attend au standard 0826-300-300. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h06, on vous le disait, dans quelques instants, on va revenir sur cette information, hein, sur ce jeune garçon de 26 ans qui a été tué par arme à feu à Blagnac, à côté de Toulouse. On en parlera avec le secrétaire régional d'Alliance Police d'Occitanie. En attendant, on vous appelle 0826.
Et on élargira même hein, sur l'ensemble, ce que disait tout à l'heure...
sur la violence.
Hein. Oui, sur la violence, hein, ce qu'on disait avec Midi Libre et l'interview de Gérald Darmanin. Les points de deal, notamment, la traque, effectivement, la délinquance et au point de deal dans toute la région.
Et Chantal est avec nous au 0826-300-300 qui va revenir sur notre question du jour. Est-ce une bonne idée de vouloir rouvrir les restaurants le midi ? C'est ce qu'ont proposé une quarantaine de parlementaires. Bonjour Chantal.
Ah bonjour à tous. Oui.
Bon. Bienvenue, alors il le propose ça à partir de la fin du mois de mars. Quoi, hein, pour la fin du mois de mars et puis et avril. Que pensez-vous de cette proposition ?
Mais je pense que c'est une bonne proposition, mais qu'elle est complètement, elle n'est pas mesurée assez, elle va pas assez loin. C'est-à-dire que moi, j'ai 70 ans et j'ai la chance de penser que la plupart des Français sont des gens responsables et qu'il est inutile. Et en plus, je suis pas mauvaise en maths, a priori. Ouais. Et donc, il est inutile de priver de liberté, comme ils le font depuis un an, 66 millions de personnes pour quelques milliers de malades. Il serait utile de nous donner
des informations. Morts,
quelques milliers de morts aussi.
Bah oui, 85,
mais pour ça, il serait quand même utile de nous dire, éventuellement, de nous donner des informations sur des traitements préventifs, sur les symptômes de ces différents variants avec lesquels on nous fait peur tous les matins, etc. Les gens ne savent plus quoi penser, ils ne savent plus de quoi ils ont peur, et ils sont privés de toutes les libertés. Alors, à la campagne, par exemple, on est privé de toutes les associations qui nous font d'habitude des activités, point. Le sport, point. Les enfants sont privés des contacts, enfin, les étudiants sont privés d'aller à la fac, les restaurateurs sont privés de travail, enfin, etc.
Ça, c'est vrai. Chantal.
Politique.
Oui, Chantal. Oui, on en parlait tout à l'heure avec l'un des députés de La République En Marche, d'ailleurs. Comme quoi, ils ne sont pas tous finalement derrière le gouvernement. Sur la réouverture potentielle des restos à partir de la fin du mois de mars, il disait voilà, qu'on laisse le choix à certains avec des jauges et qu'on s'organise. Parce que c'est vrai que dans certains bourgs, dans certaines communes, quand on y passe, mais aujourd'hui, c'est d'une tristesse complètement dingue.
Je suis d'accord avec vous.
Évidemment, où c'est plus ouvert, le bar, et on le comprend un peu, bien sûr, pour faire attention, mais les petits restos aussi, le midi, pour ceux qui travaillent, quoi. C'est vrai que c'est compliqué.
Alors, par contre, ce que je dis depuis le début, ce que je me dis depuis le début, c'est que ces gouvernants-là ne font pas leur rôle, ne font pas leur boulot. C'est-à-dire que depuis un an, ils n'ont rien donné à l'hôpital. Ils n'ont pas prévu d'organiser les choses entre le privé et le public. Ils n'ont pas donné de tests, ils n'ont pas donné de vaccins suffisamment tôt, etc., etc. Alors donc, c'est, vous voyez, là,
c'est toujours avec du décalage, quoi. C'est un peu ce que vous voulez dire, quoi. Oui, par exemple, pour la vaccination.
Ils nous privent de liberté depuis un an. temps. Ouais. Ça suffit, quoi. C'est bon, c'est pas étonnant que les gens aillent dans l'herbe le dimanche, quand même, il n'y a rien d'étonnant. Non. Et d'ailleurs, ils ne croient plus, plus personne ne croit dans ces gouvernants. Ils ne fonctionnent que pour, avec leur idéologie qui est bornée.
Bon.
Bornée à du commerce. Point barre.
Bon, bah, voilà, Chantal,
très,
c'est...
Très
en colère ce matin.
Hein, très radical et chude.
Oui. Bon, Non, ben bah, après, c'est une expression sous le coup de la colère, comme beaucoup de Français, évidemment, qui voudraient que ça se termine, évidemment, tout ça. Et c'est vrai qu'il faut mettre davantage de moyens pour la vaccination. Alors, il y avait des réticents à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est peut-être l'une des seules solutions pour pouvoir s'en sortir, quoi. Parce que vivre avec le virus aussi disent d'autres, mais il y a quand même des gens qui sont touchés, qui sont dans des conditions difficiles d'un point de vue sanitaire et qui sont précaires et qui peuvent évidemment aussi eh bien malheureusement être très, très malades et voire davantage, hein, puisque il y a quand même des victimes. Merci Chantal. Comme Chantal, si vous voulez réagir, 0826 300 300, vous aurez l'occasion tout à l'heure aussi avec Un voile sur le monde de Chantal de Ruder sur le port du voile. Hein. On continue donc, Cécile le disait, avec Philippe Lavenu, hein, qui est secrétaire régional d'Alliance Police Nationale pour l'Occitanie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en route pour rencontrer tout à l'heure Gérald Darmanin, hein, cet après-midi à Alès, où vous allez y aller. Il veut s'attaquer au point de deal avec des renforts de policiers. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Blagnac, avec cet homme de 26 ans qui a été tué par arme à feu.
Bah, écoutez, on s'aperçoit qu'une fois de plus, la violence monte d'un cran. Alors, à Toulouse, ça fait quand même le sixième mort par balle ces derniers mois. Ça devient inquiétant. Ça prouve déjà, alors, anecdotiquement, que le couvre-feu n'est pas respecté parce que c'était en pleine nuit.
Ouais.
Et qu'on ne peut pas le faire respecter, mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus dramatique. Il y a des armes à feu qui circulent et des gens qui n'hésitent pas à s'en servir, soit pour régler des comptes commerciaux, hein, quand il s'agit du trafic de drogue. Là, l'état de l'enquête ne permet pas de dire si c'est lié...
C'est une soirée qui a mal tourné, c'est ça,
a priori,
non, alcoolisé un peu, non ?
C'est ce qui transpire en ce moment, oui.
Bon,
on n'a pas les résultats, mais j'allais dire, peu importe. C'est que des gens armés n'hésitent pas à tirer et puis ils n'hésitent pas à s'entretuer pour des motifs les plus futiles.
Ouais. Ils ont été arrêtés. Hein, les suspects ont été arrêtés, c'est ça ?
Quelques suspects ont été arrêtés. La police judiciaire va effectuer les investigations. Il reste à démontrer si c'est bien eux, donc tout ça n'est pas encore acquis.
Des jeunes de 16 à 19 ans.
Est-ce qu'on sait d'où viennent les armes à feu ?
Eh bien justement, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une recrudescence de l'usage des armes à feu, des règlements de compte avec des armes à feu, ce qui prouve que les armes à feu circulent assez facilement sur le territoire français. Donc il faudrait qu'on s'attaque à ça, et pour ça, il faut d'une part des effectifs pour pas que les gens soient sur la voie publique alors qu'il y a un couvre-feu, donc il faut des effectifs sur la voie publique, mais il faut aussi des effectifs dans les services d'investigation pour pouvoir mener à bien les enquêtes et mettre à disposition les auteurs de ces faits devant la justice.
Oui.
Et c'est là où le bât blesse bien souvent. C'est parce que le travail des policiers, il est fait. Alors, on va pouvoir démultiplier les effectifs, il y en a besoin. Mais par contre, si on remet les bandits à la justice et que la justice ne les poursuit pas, ou peu, et qu'elle les remet dans le circuit, on s'en sortira jamais. Ce qu'il faut, c'est une réponse pénale exemplaire. Et quand des gens assassinent d'autres personnes, il faut qu'ils restent en prison le plus longtemps possible.
Mais qu'on comprenne bien, parce que vous êtes quand même policier, donc Philippe Lavenu, vous devez avoir une petite idée de la provenance quand même de ces armes, comme vous
est-ce
interrogez.
Est-ce que ça vient d'étranger
Il y a du trafic, il y a des circuits, quoi.
Je ne suis pas un spécialiste du trafic des armes, mais on le sait que ça vient souvent des anciens pays de l'Est qui ont été démantelés. Et puis, c'est une filière qui est très connue, mais ceci depuis des années. Le problème, c'est que peut-être ces armes circulaient, peut-être que ces armes étaient en stock quelque part. Aujourd'hui, c'est que personne n'hésite à s'en servir. C'est-à-dire que les possesseurs de ces armes se servent de ces armes. Et pour tuer, soit pour régler des comptes, je vous l'ai dit, et c'est souvent par rapport à des trafics de drogue, là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, si c'est pour régler un différend amoureux, on commence à utiliser des armes lourdes, oui. des armes de guerre, ça va devenir compliqué. Donc, oui. il faut vraiment une réponse pénale. Et oui. pour rebondir sur la visite du ministre,
oui, c'est ça.
Sur le Beauvau de la sécurité, il y avait ce sujet qui n'était pas prévu au départ, ce qui faisait que nous ne voulions pas participer au Beauvau de la sécurité, c'est qu'il n'y avait pas tout ce pan justice. Relation police-justice, réponse pénale, protection du policier. Oui. Et dans la réponse pénale, c'est simple, on demande un observatoire. Il y a des peines prévues par le code pénal, code de procédure pénale. Donc, peine prévue, vous verrez bien que à la peine prononcée par la justice, il y a déjà une différence. Et la pire des différences, c'est celle entre la peine prononcée et la peine réellement effectuée.
Parce qu'avec
les remises de peine, celui qui doit faire 15 ans, eh ben, il est condamné qu'à 10, et une fois qu'on l'a condamné à 10, il en fait peut-être que 2 ou 3. Ouais. Donc on le retrouve dans le circuit, le gars, pourquoi il gênerait, il vient de tuer quelqu'un, il est accusé de trafic de drogue, allez, 4-5 ans après, il se retrouve dehors. Et il recommence. Ouais. Et là, il y a deux problèmes. C'est-à-dire que lui, il a ce sentiment d'impunité. En prison, il fait du sport, il s'instruit, il en tire une certaine gloire. Et puis, il y a toutes les victimes qui ne comprennent pas pourquoi, 2 ou 3 ans après, l'assassin, le trafiquant, l'agresseur, il est dehors. Il le croise dans la rue.
Donc, ce n'est pas que le ministre de l'Intérieur que vous attendez. Vous attendez aussi, surtout, le garde des Sceaux du Pont-Moretti derrière pour qu'il y ait de la fermeté.
Mais tout est lié. Il nous faut des moyens pour arrêter les voyous, puis il faut que les voyous soient condamnés.
Bon.
Quand on aura fait ça, on aura bien avancé.
Merci beaucoup. Philippe Lavenu, secrétaire régional d'Alliance Police Nationale pour l'Occitanie, qui va se déplacer à Alès donc, pour rencontrer cet après-midi Gérald Darmanin.
Et dans un instant, une enquête incroyable sur le voile dans le monde, en France, aux États-Unis, en Bosnie, en Belgique, en Iran, en Turquie, en Arabie Saoudite. C'est la journaliste Chantal de Roder, de l'ex-journaliste reporter de L'Obs qui fait cette enquête, une espèce de radiographie, vous allez voir, en tout cas c'est sur l'histoire et sur aujourd'hui le voile islamique un peu partout dans le monde. On en parle dans quelques instants, vous voulez réagir bien sûr, 0826 300 300, on vous attend au standard.